Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, auteur du nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités, chez Bûcher Chastel, Thibault Langsade, le président de Lumines, et Christian Saint-Étienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, on peut vous lire dans Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob. Ça passionne ces histoires de transition vers la voiture électrique et la fin du moteur thermique. Là, j'ai Jonathan qui m'a écrit « Des carburants écologiques sont en développement, personne n'en parle ». Là, c'est celui qui a foi dans cette transition, qui probablement pense que 2035 est une date réaliste. Il y a Matouman qui m'écrit « Il aura fallu du temps pour... comprendre ce qui se passe sur ces voitures électriques, le fait que, est-elle vraiment verte, cette voiture verte? La transition est-elle possible dans un délai aussi court? Cet éditeur m'écrit, j'ai un niveau BEP, mais j'avais compris ça depuis longtemps. Il y a Victorien qui parle d'une transition en marche forcée en Europe, avec beaucoup d'idéologie, beaucoup de volontarisme affiché. Donc vous sortez une étude sur la fin des ventes de voitures thermiques en 2035, Olivier Babeau avec l'Institut Sapiens, quel est le message?
Alors déjà, votre éditeur a raison, enlever le thermique, c'est déjà fermer la porte au biocarburant. C'est un peu dommage de fermer la porte au biocarburant, parce que c'était aussi une solution. À partir du moment où il n'y a plus de thermique, c'est terminé.
Ah oui, le bioéthanol fait partie de ceux qu'on ne peut plus utiliser, qu'on ne vend plus en 2035.
Il n'y a plus de thermique, donc c'est fini. Alors, c'est l'Europe qui vient de prendre cette décision. Attention, le reste du monde n'a pas prise du tout. Et les États-Unis, par exemple, s'en seront bien gardés. Eux aussi, ils ont des industries. Nous, notre industrie automobile, c'est 7% du PIB, c'est 10% de la main-d'œuvre manufacturière en France.
C'est colossal.
L'automobile, c'est colossal, avec évidemment des grandes entreprises qu'on connaît bien, mais derrière une myriade en fait de producteurs et de sous-traitants. Bon, l'argument c'est quoi? C'est ça va être moins cher, vous allez voir, ça va être super, et ça va être surtout beaucoup plus propre. Quand on analyse vraiment, d'abord est-ce que c'est moins cher? C'est 50% plus cher une voiture électrique. Déjà que les voitures thermiques ont augmenté pour des raisons de coût de production de 10%, qui font que c'est de plus en plus difficile pour des gens plus modestes d'avoir accès à du neuf,
et donc ils
sont cantonnés à de l'occasion et de l'occasion de plus en plus de deuxième, troisième, quatrième main avec beaucoup de kilomètres, donc ça devient déjà de plus en plus polarisé. Mais là, 50% plus cher, il va falloir vraiment beaucoup aider les gens. Mais évidemment, le principal argument, c'est bilan CO2. Bon. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est ça dépend comment vous produisez, évidemment, l'électricité que vous mettez dans votre voiture électrique. Si vous êtes en Pologne ou même en Allemagne aujourd'hui, votre électricité, c'est du charbon. Donc, en fait,
vous
avez juste magnifiquement déplacé votre pollution, mais c'est exactement la même. Mais surtout, la fabrication d'une voiture électrique, ça nécessite des grosses batteries. Ces batteries sont extrêmement voraces, énergivores, et voraces en métaux rares qui sont extraits d'une façon aussi qui est très, très variable sur la planète, mais puis en tout cas c'est pas chez nous, c'est plutôt en Chine, en Asie du Sud-Est et ailleurs. Ce qui fait que si on calcule, on a fait un petit calcul, vous pouvez le voir dans la note, en fonction en gros de est-ce que vous avez une petite voiture citadine électrique, qui là est pas trop mal, faut dire, bon on est quand même moins que le thermique, et puis la grosse roulante qui vous permet d'aller loin électrique, et ben celle-là sur 100 000 km vous avez un tout petit peu de CO2 en moins par rapport à une thermique,
le bilan
mais pas tellement. Évidemment,
le
on parle
bilan
du bilan
carbone
du
de
cycle
l'électrique.
Complet, voilà.
Au bout de 100 000 km sur une grosse électrique, on commence à avoir un bilan carbone préférable à une thermique.
Exactement. Mais le problème, c'est qu'après, il va falloir, au bout de 100 000 km, en fait, c'est pareil, il faut la changer. Donc, en fait, finalement, on n'y gagne pas réellement. C'est quand même assez décevant. L'autre idée,
c'est que...
Vous
dites ça tellement gentiment, quand on voit ce que ça représente comme révolution.
Si demain, vous avez tout le monde qui est électrique, il y en a environ chaque nuit 10 millions qui sont en charge, ça représente en puissance appelée l'équivalent de 40% de ce qu'on appelle aujourd'hui en consommation au moment du pic de l'hiver, vous voyez, quand tout le monde allume, etc.
Et ça suppose en plus l'idée que les gens le feront bien la nuit, comme on espère qu'ils le feront la nuit,
exactement.
Et qu'ils le feront pas à 18h en rentrant à la maison.
Et puis, alors, pour terminer, au moment des grandes transhumances du mois d'août, on a calculé qu'il allait falloir voir sur nos autoroutes 42 000 bornes à très haute puissance, ça fait 92 bornes par stations d'autoroute, parce qu'il y en a, 450. C'est évidemment un équipement à développer extrêmement vite, parce que c'est moins de 15 ans, en fait, hein, ce qu'on s'est fixé.
Oui, puis il n'y a pas de business model, en plus, ces bornes publiques.
Et puis, on parle tout le temps de souveraineté. En fait, on avait une dépendance aux hydrocarbures. Ça, on connaît bien. Et bien, on va créer une dépendance aux métaux. Mais en fait, ce n'est pas extrêmement différent. Ce n'est pas tellement plus réjouissant.
Ouais, et sans compter ces chiffres qui m'ont fasciné sur notre... Aurons-nous la capacité de produire l'électricité nécessaire? Parce que c'est une grande idée que tout le monde va brancher, évidemment, son truc avec un déclencheur nocturne à 2 heures du mat. C'est pas comme ça que les choses vont se dérouler. Et c'est RTE qui a considéré que sur cette période-là, il fallait augmenter pratiquement de 100 TWh la production d'électricité. On est à 460, il faudrait aller à 550. C'est absolument pas les hausses de production qu'on a pu observer les années précédentes. Donc ce sont des défis énergétiques. Et puis aussi, est-ce qu'on n'est pas en train d'exclure une partie de la population de la mobilité? Ça, c'est quand même un vrai sujet. Ça vous inspire quoi, Christian Saint-Etienne?
Alors moi, je vais aller encore plus loin parce que il y a deux aspects industriels qu'il faut avoir à l'esprit. Pendant une grande période de transition, les batteries vont venir de Chine. Oui. Donc le bilan carbone est monstrueux parce que les batteries en Chine sont faites de plus en plus avec de l'électricité au charbon. Au moment du déclenchement de la crise, le Parti communiste a autorisé la construction de 250 centrales électriques au charbon en Chine. Ils en ont construit et mis en rattachement au réseau 50 en urgence. Donc, quand vous achetez une batterie qui vient de Chine, elle a été fabriquée avec de l'électricité au charbon. Ensuite, elle prend un porte-conteneur qui, sur la durée du voyage, pollue autant qu'un million de voitures. Elle arrive ici et on l'installe donc ensuite dans les conditions qui ont été évoquées par Olivier Babeau. Donc, on se retrouve avec un bilan carbone qui sera peut-être positif légèrement pour 100 000 kilomètres accomplis dans l'année, mais peut-être en 2050. Bon, et donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que sur le plan environnemental, le gain est extrêmement limité. Alors, ça fait en revanche très longtemps, plus de 10 ans, que je prône la voiture électrique à l'intérieur des métropoles. Là, ça fait sens parce que ça réduit la pollution à l'intérieur de Paris, Lyon, Marseille et les autres grandes villes de France et d'Europe. Donc ça fait sens. Mais passer à l'électrique au niveau national, ça n'a pas de sens. Mais le deuxième élément qui est encore plus monstrueux, c'est que l'automobile, sur le plan manufacturier, c'est une industrie d'excellence de l'Europe depuis 150 ans. L'Europe fait les meilleures voitures du monde, à la fois allemandes, françaises, italiennes. Donc, on bascule. Et sur le plan technologique, l'excellence industrielle dans l'automobile a tiré l'excellence industrielle dans tous les autres domaines. Là, on met au rebut tous ces savoir-faire et on passe à l'électrique qui va être assez facilement produit parce que c'est moins technologique par les Chinois. Donc non seulement on a ce problème de pollution, mais en plus la Chine va prendre des parts de marché colossales de la production de véhicules.
Ils ont des constructeurs chinois. Hein.
Donc on avait une dépendance au pétrole et une excellence de production européenne. Et de cette situation-là, on passe à une situation de double dépendance, où on va être dépendant du Parti communiste totalitaire chinois pour l'approvisionnement en voitures et en batteries, et par ailleurs en terres rares, venant d'Afrique et de Chine, dans des conditions environnementales souvent catastrophiques. Donc le double bilan industriel et environnemental de cette mesure est complètement suicidaire. Effectivement, les États-Unis, Biden, s'est bien gardé de prendre une mesure de ce type. Et donc là, la réponse, de mon point de vue, ça serait d'obliger les constructeurs à abaisser le mix émissions de CO2 par flotte qu'ils produisent et les laisser faire sur la façon d'arriver à ce résultat. Mais la manière administrative est totalement suicidaire du point de vue européen. Alors, le Parlement a voté ça, c'est pas fini.
Oui, c'est pas fini.
Il va y avoir encore des accords à négocier avec les gouvernements.
Je sais pas, Thibault Langsot, si vous avez un avis sur ce...
Moi, je vais rebondir sur le dernier point, c'est qu'en termes de stratégie filière, ça va être extrêmement périlleux. C'est-à-dire que moi, j'adore l'objectif volontariste et on a tous envie d'avoir des voitures propres, mais la réalité industrielle va être extrêmement compliquée. Au-delà des batteries, il va falloir adapter toutes les voitures. Et quand on voit que l'industrie automobile est organisée de façon filière et qui n'est pas la filière la plus exemplaire, elle fonctionne bien. La filière de l'aéronautique est la plus exemplaire parce que l'unité de temps est commun dans l'aéronautique, puisque les avions volent très longtemps et on a besoin d'une robustesse. Mais dans la filière industrielle automobile, on a des rapports de force qui sont beaucoup plus violents. Et elle est soutenue par une kyrielle de PME, d'entreprises de taille intermédiaire. Et donc, donner le cap, c'est aussi, qui est un cap très court, je ne suis pas certain que cette filière soit en capacité de mutation aussi forte et d'innovation aussi forte. Il y a un sujet sur les batteries, mais adapter une voiture, c'est pas que la batterie, c'est revoir toute la carrosserie, revoir l'ensemble des équipements pour qu'elle soit adaptée. Et cette stratégie filière en France, elle n'est pas exemplaire, elle est extrêmement vulnérable dans un contexte économique qui est extrêmement instable. Donc l'objectif est très court. Moi je suis plutôt inquiet sur le risque industriel. Il suffit de voir la pression qu'avait mis le gouvernement, souvenez-vous, pour reconvertir l'industrie automobile française sur des produits carburés blancs et non pas diesel. Ça avait mis un temps absolument fou et ça avait provoqué des débats et des tensions extrêmement fortes.
Des dizaines de milliers de licenciés.
Et donc là, on a des unités de production qui sont à la fois en Europe mais partout dans le monde. Donc c'est un petit séisme. J'adore, on va dire, la volonté très forte affichée parce que ça donne un objectif. Mais le risque industriel est réel.
C'était Carlos Tavares qui disait clairement, c'était fin 2021, ça a été un choix politique, pas industriel. Un choix politique,
oui,
pas
industriellement parlant. Même sur le plan politique, c'est pas bon. On vient de montrer que le bilan environnemental n'est pas bon. Et en plus, on passe d'une dépendance aux hydrocarbures, c'est monstrueux, mais après tout, ils sont à côté de chez nous. Et leur argent, ils adorent le dépenser à Paris ou ailleurs. Donc, et on passe à une dépendance avec la Chine,
en
faveur de la Chine, qui va entraîner un rapport de force politique extrêmement violent, parce que les Chinois, quand ils auront 40% du marché automobile européen, ils vont nous appuyer sur la jugulaire.
C'est vraiment, enfin, c'est toujours Lacan. Enfin, le réel, c'est quand on se cogne. Encore une fois, et l'idéologie, c'est ce qu'ils pensent à votre place, hein, c'est Revel. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on prend une décision idéologique non conséquentialiste. Et en fait, c'est le bingo comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va perdre notre industrie et on va pas moins polluer. Voilà. C'est vraiment génial.
C'est assez peu évoqué ce sujet. On en parle assez peu. Il y a une forme de pudeur. Quand Thibault dit ça va être compliqué industriellement, c'est pas que ça va être compliqué, c'est que ça va être
infernal. Je peux le dire de façon beaucoup plus directe.
Parce qu'en France, moi, les chiffres que j'ai vus, c'est 100 000 suppressions d'emplois dans la filière.
C'est à peu près ça, oui.
Et au niveau européen, c'est entre 1,5 million et 2 millions. Bon, donc c'est absolument colossal.
En Allemagne, ils parlent de 200 000 postes qui voleraient en éclats, effectivement.
Donc si on produisait, si on était capable industriellement de produire à 100% des véhicules électriques avec tous les composants produits en Europe, bingo, mais c'est pas le cas. Donc c'est un mensonge stratégique.
Christian, les optimistes vous disent qu'il y a des progrès sur des carburants de synthèse, que oui, effectivement, on a du retard sur les batteries, mais il y a quand même des usines qui sont en train de sortir de terre et qu'on va être en capacité d'être un peu autosuffisant.
Oui, mais les usines qui sortent de terre ne couvriront pas tous les besoins à batterie. C'est pour ça qu'on va importer à la fois des batteries et des voitures de Chine.
Et puis il y a 3 constructeurs chinois qui sont en train de monter en puissance. Vous allez voir, quand ils vont vous sortir des voitures électriques 1,5 fois moins chères que les voitures européennes, c'est compliqué.
Et en plus, vous venez de mettre le doigt sur un point clé. Là, toutes les usines de batteries que nous construisons en Europe, sauf en Suède, elles sont construites aussi bien en Allemagne qu'en France avec des partenaires chinois. Donc, même les batteries construites en Europe continentale, elles seront avec des partenaires chinois. Donc, en fait on se met dans les mains du Parti communiste chinois, c'est-à-dire du politburo du Parti communiste chinois.
Mais du coup, sur ces questions de pollution, je vais vous faire réagir sur l'histoire de la taxe carbone aux frontières. C'était l'impasse totale en Europe il y a quelques jours, quelques semaines. Ça y est, un accord a été trouvé. Alors, 2 éléments sont venus amender le projet de départ pour que l'accord voie le jour. Donner 2 années de plus aux entreprises européennes pour supporter le début de la fin des quotas gratuits. C'est-à-dire commencer non pas en 2025 mais en 2027 pour arriver en 2032 avec une fameuse taxe carbone. Et puis le deuxième élément, c'est d'accorder aux industriels vertueux qui investissent notamment dans la transition écologique et qui exportent vers des pays qui ne taxent pas le carbone, de conserver pour eux des quotas gratuits. Ça vous inspire quoi, cette histoire de taxe? D'abord, est-ce que vous avez compris comment ça va fonctionner? Moi, je vous avouerai franchement que le mode d'emploi, la tuyauterie de cette taxe carbone m'échappe encore un peu. Cette idée que c'est celui qui nous vend quelque chose qui paye cette taxe à l'arrivée, c'est quand même bien généralement le consommateur qui paye. Cette idée qu'une partie de cette taxe sera redistribuée aux ménages européens les plus modestes, très bien, c'est le côté un peu pigouvien du projet, mais comment ça va fonctionner? Et puis, quelle sera notre capacité d'aller vraiment calculer l'empreinte carbone intégrale d'un produit? On sait le faire aujourd'hui dans des domaines très précis, l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, la chimie, l'électricité, mais pas sur un produit fini. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? Qui veut réagir à ça?
Moi, juste.
Soit vous me dites, c'est historique, l'Europe prouve que le signal prix sera l'alpha et l'oméga de la transition verte, heureusement que nous sommes là. Ça, c'est je bombe le torse. Ou oui, d'accord, ok, mais comment ça va fonctionner?
Non, mais juste, je ne vais pas rentrer sur le comment, je vais laisser mes camarades, mais...
Je suis sûr qu'ils savent exactement comment ça va fonctionner.
Après, le cadeau empoisonné, là.
Demandez à n'importe qui, taxe carbone aux frontières, Kézako, vous allez voir, tiens.
Non, mais...
Même après, un parlementaire...
Après avoir dit du mal de la décision du Parlement européen et sur la base d'une proposition de la Commission pour les automobiles en 2035, je voudrais dire qu'en revanche, les économistes, depuis 30 ans, sont totalement favorables à la taxe carbone et totalement favorable au signal prix. Alors après, comment on met en pratique, c'est complexe, même si on peut le faire comme sur tous les produits que vous avez évoqués, ciment, aluminium, ainsi de suite.
C'est des produits sur lesquels on sait faire le bilan carbone mais de manière à peu près certaine.
Mais ce sont des produits importants. Donc, l'idée même est très bonne. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Oui.
Vous n'êtes pas dans
les secteurs qu'on va martyriser.
Non, on n'est pas dans le secteur, mais moi, le seul point extrêmement favorable que j'y vois, c'est que c'est une première pierre sur le protectionnisme européen auquel on a réellement besoin. Donc, enfin.
Ah, vous mettez le mot protectionnisme.
Je mets le mot protectionnisme parce qu'on est en train de mettre des contraintes financières pour pouvoir protéger nos industries. Enfin, Bruxelles se met à la page au moment où les Américains ont mis en place.
L'histoire ne plaide pas pour le protectionnisme.
Au moment où les Américains ont mis en place des dispositifs extrêmement contraignants pour les entreprises étrangères sur le territoire américain, il faut remonter à loin sur les accords de l'Uruguay-Rand. Enfin, on commence. Ce sont les prémices d'un dispositif de protection de nos industries européennes. Il faudra aller plus loin sur un Small Business Act, sur de la souveraineté. Je pense qu'il faudra revoir les critères de concurrence. Si on veut avoir des mastodontes, et notamment dans l'industrie automobile, il y a un moment, il faut qu'on mette en place des règles de protectionnisme, c'est-à-dire qu'on casse ces notions de marché et d'ouverture pour pouvoir concentrer de l'argent et de faire en sorte que les entreprises puissent muter. Voilà, c'est un signal qui est important. Je pense que Thierry Breton est en dynamique là-dessus. C'est la première paire. C'était voulu par les entrepreneurs, hein, de faire en sorte qu'on puisse se protéger. J'avoue que la tuyauterie nécessitera d'être expliquée. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être mis en œuvre de façon assez simple. Mais pour moi, c'est du protectionnisme.
Alors, c'est étonnant d'entendre... Un économiste, généralement, a du mal à défendre le protectionnisme.
Oui, mais on est dans un contexte bien particulier.
On pourrait dire rétablir une concurrence davantage loyale, vous voyez. Mais vous avez vu que Joe Biden est en train de revenir en arrière sur les droits de douane parce qu'il se rend compte que les côtés contre-productifs des hausses de droits de douane excessifs et donc de mesures protectionnistes excessives, eh bien, conduisent à des effets pervers qu'il faut corriger. Olivier Babot.
Moi, je ne lis pas comme du protectionnisme. Je lis en effet comme une concurrence plus loyale. Équitable. Mmh. Parce qu'à un moment donné, si vous avez deux produits dont l'un a été produit dans des conditions sociales et environnemental dégueulasse, et l'autre qui est un peu plus cher, alors vous allez perdre face au consommateur. Alors qu'il y a un problème de signal, et en économie, tout est signal. Je veux dire, tout se réduit au fait que si vous avez le bon signal, vous avez de la coordination qui se fait. Et donc le signal prix, ça va être formidable pour pouvoir enfin intégrer la valeur de votre effet sur l'environnement. On peut mettre d'ailleurs beaucoup plus que de choses que l'environnement, la biodiversité, et puis bien sûr le respect social. C'est normal que l'Europe arrête de se faire tailler des croupières par des pays qui n'ont pas du tout les mêmes exigences, en tuant ses propres industries et productions, et en faisant rentrer celles qui n'ont pas d'exigences. On a tué notre production de cerises parce qu'on avait interdit certains traitements. Du coup, on a fait venir les cerises d'ailleurs parce qu'il y avait traitement. C'est complètement débile. Donc, c'est évidemment une bonne idée. Remarquons que la Convention citoyenne sur le climat, c'était le seul truc qu'elle ne proposait pas, parce que taxe carbone pour elle, ça c'était très mauvais. Alors, c'est la seule bonne idée.
Il n'y avait pas nucléaire, il n'y avait pas taxe carbone.
Non, mais exactement. Il y avait les deux seuls trucs qui sont la solution et ils n'y étaient pas. Donc, c'est un peu gênant, mais c'est évident depuis toujours qu'on dit. Il faut arriver à donner un prix au carbone, et d'une façon ou d'une autre, tu peux dire que tout le monde paiera, etc. Mais à la fin, c'est toujours le consommateur qui, d'une façon ou d'une autre, va le payer. Et c'est une bonne chose, il faut des accompagnants, mais c'est une bonne chose que les gens puissent enfin discriminer sur l'effet. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous consommez un produit, un légume bio, peu importe qu'il ait fait 6000 km ou 20 pour venir, c'est pas normal. Il y a un moment donné, il faut aussi être capable de discriminer ces trucs-là. Il nous faut du signal.
Aparté, j'ai rencontré un gars absolument passionnant, je vous raconte ma vie là. Une entreprise familiale qui fabrique des légumes, des fruits, Et depuis toujours, ils ont tendance à aller fabriquer leurs fruits là où il fait chaud, dans des conditions naturelles, c'est-à-dire au sud, pendant les périodes hivernales, et transporter ces fruits pour les gens en Europe où il fait froid, où ces fruits ne pourraient pas pousser. Ces légumes ne pourraient pas pousser. Et le gars démontre, et demande de manière hyper convaincante, qu'il vaut beaucoup mieux aller produire de manière naturelle quelque chose au sud de l'Europe, voire au nord de l'Afrique, au Maghreb, quand les conditions météo sont bonnes, et lui coller 2 jours de transport pour le vendre à un Européen, que de le mettre sous serre en Europe, pour essayer de le produire de la même manière, pour pouvoir marquer made in local, moins de 25 km, à part que le truc a été sous serre pendant des semaines, et que le bilan carbone, finalement, à l'arrivée du produit, il racontait, allez voir aux Pays-Bas que vous avez des serres de tomates. Alors oui, elles sont locales, elles ne sont pas importées d'eux, mais l'empreinte carbone est catastrophique.
Il faut faire le vrai bilan carbone.
C'est intéressant de voir l'intuition, c'est que, oh non, ça vient d'Espagne, non. Eh ben ouais, mais ça vient d'Espagne, en fait, le bilan carbone est peut-être nettement meilleur, parce que justement, ça veut dire. Bon, excusez-moi, je vous raconte ma life.
C'est vrai.
Christian Saint-Étienne,
Je voulais juste dire que pour les économistes, la taxe carbone...
C'est la solution.
Non, mais c'est la solution, mais la solution idéale, c'est la taxe carbone universelle. C'est celle-là qui serait parfaite. Et donc, une première, parce qu'à ce moment-là, l'aspect protectionniste disparaît, entre guillemets, même s'il est sous-jacent. Mais ça, c'est une vraie bonne mesure en faveur de l'environnement.
Une taxe carbone mondiale.
Voilà. Alors... Voilà. Et donc, le point intermédiaire, pour moi, c'est en tout cas ma proposition. Alors, je sais que c'est très difficile, mais il faudrait profiter qu'on a encore quelques instants une administration démocrate aux États-Unis qui pourra peut-être ne plus être effective à partir de novembre avec les midterms. Mais on aurait dû ouvrir des négociations pour créer un marché carbone atlantique entre l'ALENA et la communauté européenne, au passage en forçant les Anglais, les Norvégiens et les Suisses de l'intégrer. Et à ce moment-là, ça aurait fait disparaître l'aspect protectionniste et ça aurait permis de faire émerger complètement l'aspect de bonification de l'environnement. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de faire et... Peut-être que l'industrie automobile et les producteurs d'aluminium nord-américains seraient favorables à une taxe carbone euro-atlantique américaine.
Les chances de mettre en place des solutions universelles mondiales, j'ai toujours tendance à être, vous voyez, même l'IS à 15% est en train de vaciller. L'OMC a péniblement réussi à sortir un communiqué pour montrer qu'elle n'était pas, elle aussi, en état de mort cérébrale. Bon, quel pessimisme aujourd'hui, m'écrit Michel. Bon, il trouve qu'on est pessimiste aujourd'hui, Michel.
Bon, bah non.
Bah, ça dépend. Il y a plein de trucs sur le carbone, justement. J'ai pas tout lu. Il reste 4 minutes 40. Vous aviez pris la plume, Olivier Babot, au moment où on s'est surexcité, franchement, autour de McKinsey. Je rappelle que ce cabinet américain est le 18e auquel l'État passe des commandes. Hein. C'est pas l'alpha et l'oméga de la commande publique auprès d'un cabinet de conseil qui serait omniprésent et dominant. Bon, bref, il y a eu l'affaire McKinsey. Et là, c'est le Sénat qui sort une proposition de loi pour que l'État soit un peu sevré des cabinets de conseil. Alors, l'État devrait publier chaque année les administrations, l'ensemble des missions de conseil qui ont été commandées, le bon de commande, l'évaluation qualitative de la mission. Il serait interdit au cabinet de conseil d'utiliser le logo des administrations publiques pour pas qu'il y ait un mélange des genres. On bannirait l'usage du franglais. Bon, ça, c'est plus symbolique. On imposerait aux administrations de cartographier leurs compétences internes pour savoir s'il leur manque des compétences avant de décider de recourir à un cabinet de conseil.
On va voir le manque de compétences des administrations.
La haute autorité pour la transparence de la vie publique devrait surveiller les phénomènes de pantouflage entre le gars qui bosse dans l'administration qui va faire un petit tour chez Et voilà. Et puis, imposer la suppression des données. Le cabinet fait sa mission. Il a accès à des données publiques. Les données sont supprimées dès que la mission est terminée. Bon. Et vous aviez pris la plume, Olivier Babot, pour essayer de défendre un petit peu le recours au cabinet de conseil de la part de l'administration.
Dans ce pseudo-scandale, il y a d'abord une forme de méconnaissance des Français qui ont été stupéfaits d'entendre le tarif journalier d'un consultant. Et puis, ils l'ont comparé à leur propre salaire et ils se sont dit, mais c'est complètement fou. Mais on ne comprend pas très bien à quoi ça correspond. Ça ne va pas dans la poche directement du gars qui travaille. Et puis, c'est normal que ça soit cher parce que c'est des trucs qui sont effectivement ponctuels sur une certaine durée. Mais bon, forcément, ça choque et je pense que ça a contribué au truc. Bon. Ensuite, il faut dire que l'usage d'un cabinet de conseil, y compris dans les grandes boîtes, c'est pas un échec des boîtes, c'est juste qu'à un moment donné, vous avez intérêt souvent à aller chercher des expertises que vous n'avez pas intérêt à avoir en permanence chez vous. Ça vous coûterait plus cher d'avoir l'expertise chez vous tout le temps. C'est bien aussi d'avoir un œil extérieur qui va apporter un regard différent et puis qui va aussi aider à bouger des équipes dans des équipes permanentes qui, même dans les grandes boîtes, n'ont pas toujours envie d'avancer. Bon, cela étant, c'est vrai que l'État doit faire attention et doit sans doute réfléchir aux compétences dont il a besoin, doit pas se laisser aller à la facilité d'utiliser ses cabinets de conseil. Enfin, quand on sait la commande publique, combien c'est difficile d'en avoir, on sait que c'est quand même pas, c'est pas guichet ouvert du tout. McKinsey, effectivement, est de loin pas le premier. Bon, c'est une bonne idée. Sur les pantouflages, il faut dire qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi dur. C'est-à-dire qu'un haut fonctionnaire qui connaît quelque chose dans un secteur, il pourra pas travailler dans ce secteur, ce qui est génial, hein. Il va falloir qu'il aille surtout travailler dans un secteur où il ne connaît rien. Ce qui est beaucoup plus facile, évidemment, enfin,
vous
pour
pouvez pas non plus. Moi, je trouve que au conflit d'intérêts, enfin, c'est
non, mais c'est, ouais, c'est vous pouvez, il faut contrôler ça. Mais je pense que quand même, on a un problème d'attractivité du métier de politique. Et ben, on a aujourd'hui un problème grave d'attractivité du métier de haut fonctionnaire, parce qu'aujourd'hui, un gars intelligent, il a plus aucun intérêt à aller là-bas.
Ouais. Je me dis qu'un texte comme ça, il y aura peut-être Union nationale derrière. Allez-y, Thibault.
Non, moi, je vais réagir en tant qu'entrepreneur. Hein. J'ai à peu près entre 15 et 20% de mes marchés qui sont des marchés avec les États et les gouvernements. Les cahiers des charges techniques et fonctionnelles, ils sont majoritairement faits par des cabinets de conseil. Est-ce qu'on est dans une dimension, enfin, dans une dynamique extrêmement innovante, et ceux qui peuvent porter les innovations du moment, ce sont les cabinets de conseil. Donc, ces cahiers des charges techniques et fonctionnelles qui sont essentiels, hein, pour constituer un processus d'appel d'offres, il est majoritairement fait par des cabinets de conseil. Le laisser à l'administration, ça va mettre un temps infini, et je suis pas certain que Spot, ils aient la compétence pour pouvoir exiger de ce qu'ils attendent des entrepreneurs.
D'ailleurs, on avait appris, parce qu'on est tous rentrés devenus experts des cabinets de conseil et de l'administration, on avait appris que la plupart des missions confiées, c'était des missions hyper techniques de transition numérique, et on n'était pas sur une espèce de facilité qui consisterait à faire appel à un cabinet de conseil parce que c'est plus simple, ou même presque par amitié. Je sais pas, Christian Saint-Étienne, 40 secondes, hein, on a fini.
Oui, juste pour fixer les ordres de grandeur sous le contrôle de mes camarades, les cabinets de conseil, c'était 900 millions
oui,
par an.
Au total, 900 millions.
Voilà, dont 800 millions essentiellement d'informatique.
C'est ça.
Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la dépense publique en France va tourner à 1500 milliards.
En 1004, allez.
Donc 1% de 1500 milliards, c'est 15 milliards. Donc là, 800 millions, on est en dessous de 1 millième. Et pour ce qui n'est pas informatique, c'est-à-dire de 100 millions, on est en dessous de 1 dix millième. Donc c'est peanuts. Alors pourquoi il y a eu cette affaire, c'est essentiellement McKinsey, parce que là ils n'étaient pas sur le technique, ils étaient sur des définitions stratégiques pour la santé et autres. Mais là effectivement, que le gouvernement fasse appel à des compétences extérieures, c'est peut-être une bonne idée.
Merci à vous d'avoir été là, Olivier Babot, Thibault Langsat. Donc allez voir l'enquête, l'étude sur la voiture thermique sur le site de Sapiens. Thibault Langsat et Christian Saint-Étienne, rendez-vous demain à 9h.